planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot deux et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce que on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4.
Bienvenue sur Dicotylédonde, l'émission qui parle plantes. Elle vient de germer et c'est sa grande première en direct de Radio Galère. Sous-titre, soyez indulgents sur la technique.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, donc, l'émission qui parle plantes. On vous la présente. Les dicotylédons, à l'inverse des monocotylédons, ce sont les plantes qui germent en faisant deux feuilles.
Dicotylédonde, c'est donc une émission de radio qui parle de dicotylédones, mais pas que. L'émission aussi germe à deux têtes et est fabriquée et animée par Clémence et Nina. On s'est rencontrés au mois d'octobre à Grenoble dans un diplôme universitaire d'ethnobotanique appliquée. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, on était contentes d'être là, on habite toutes les deux à Marseille et on aime bien ce qui s'invente autour du son et de la radio. À la fin du DU, on s'est dit « Banco, procrastinons sur la rédaction de nos mémoires, faisons plutôt une émission de radio mensuelle sur Radio Galère ».
On a envie, dans ces émissions, de parler de notre rapport au végétal, des liens qu'on tisse avec les plantes, de tradition, de transmission, de savoir-faire. On a envie de parler des plantes, mais aussi de ce qu'elles sont devenues dans nos quotidiens. On a envie de parler de jardin, de bouquins, de cuisine, de lutherie, de millepertuis, d'ortie, de cataplasme et de bruit, d'herboristerie, de voyages, de racines et de rencontres. Ça sera donc ça, tous les mois, en vrac, des chroniques végétales. Dicotylédonde est ouverte à toutes les contributions. Si tu veux participer, envoie-nous un message. dicoty@ethique.com, dicoty@ethique.com.
Pour cette première émission, on avait envie, avant de plonger dans la botanique, de dézoomer et de questionner la notion du paysage, d'interroger la mémoire des lieux et l'histoire de la terre. Pour ça, on a un invité, notre premier, Alexis Feix, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous. Alexis, tu es paysagiste et toi non plus, tu sais pas très bien ce que ça veut dire d'être paysagiste. Est-ce que tu veux bien nous raconter en quoi ça consiste en quelques mots ?
Alors, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Si, quand même, un petit peu. Par contre, je sais que c'est effectivement difficile d'en parler en quelques mots. Mais pour jouer le jeu, moi je suis paysagiste, je suis diplômé, donc je suis paysagiste concepteur, diplômé de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, diplômé il y a 10 ans, et praticien depuis 10 ans, et aussi enseignant dans cette école depuis 8 ans. J'enseigne le projet de paysage, et en fait c'est à partir du projet de paysage, à partir de la définition du projet de paysage, qu'on peut cerner ce qu'est un paysagiste. Et pour le dire très simplement et rapidement, le projet de paysage, il est là pour améliorer des conditions d'habitabilité des territoires où l'humain s'installe. Donc, installer les conditions pour que l'humain, s'installe en intelligence avec un territoire, ses milieux, ses écosystèmes, et donc les vivants de manière générale. Voilà, donc le paysagiste travaille pour ça, avec, jamais tout seul, toujours avec soit des architectes, des urbanistes, des écologues, des géographes, mais aussi des anthropologues, des sociologues, parce que on s'adresse toujours à une complexité, quoi. Donc voilà, améliorer des conditions d'habitabilité dans l'installation humaine, qu'elle soit en milieu urbain ou milieu rural.
Bah, merci, et du coup, puisqu'on va parler ensemble aussi de comment on nomme les choses du paysage ensemble, on te propose d'écouter, avant d'en discuter, un petit montage qui mêle les voix de Gilles et Jeanne dans un jardin corse, et d'Angela Duval, qui est une paysanne poétesse de Bretagne. Ça parle du nom des champs, de géoportail et de la mémoire des lieux. On écoute.
Incroyable. Tout ce qui nous arrive est incroyable ce soir. Bienvenue dans l'émission Mon petit jardin à moi. Et donc, ce soir, pour la première fois, nous invitons Jeanne, la grande propriétaire de cette petite parcelle MP126.
Une ferme, c'était tout un poème.
Oui, par exemple.
Par exemple, Kernotirio, là, qui est là devant nous. Bien, Kernotirio, ça veut dire les beaux hôtels. Kernotirio, bien la ville des hôtels, parce qu'il y a une chapelle, la chapelle Saint-Magloire. Eh bien, Kernotirio, c'est déjà tout le titre d'un poème, si vous voulez.
Oui.
Nous allons donc faire avec ce que nous avons, c'est-à-dire un plan cadastral. Que peut-on voir sur un plan cadastral, monsieur Gilles ?
J'ai réussi à aller sur Géoportail, mais je ne comprends pas trop. Je ne sais pas l'utiliser, mais je crois que ça
alors,
marche.
Sur Géoportail, quand on va sur Géoportail, tout en haut à droite, on a une petite clé. Si on clique sur cette clé, on a plusieurs choses qui nous sont proposées, et au-dessus, on a des calques.
Voilà, j'ai mis des calques déjà, les cours d'eau.
Voilà, et alors
les haies linéaires, mais ça n'apparaît pas, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Alors, on a les haies, on a les cours d'eau, et normalement, sur certains types de plans, on peut avoir les courbes de niveau, et donc c'est lesquelles.
Mais j'ai vu un truc, regarde, courbe de niveau, mais sauf que ça n'affiche, c'est ça, carte des pentes pour l'agriculture, c'est pas ça?
Ça peut être ça, mais
ça affiche tout en rouge, regarde. Quand
vas-y,
je le
mets-le, qu'on voit.
Tout est à plus de 10% de pente. Ah, bah ça marche plus.
Ok.
Eh bien, tous les champs, c'était comme chacun, c'était comme un vers du poème.
Oui, comme un jardin.
Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 champs dans le même champ. Allez chercher leur nom maintenant parmi tout ça.
Ce sont des enfants perdus, un
oui,
peu.
Oui, ma foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi.
Oui.
Et alors, ce qu'on peut aussi aller voir, c'est comparer avec les plans des années 50 pour voir à quoi ressemblait ton terrain dans les années 50 et voir s'il y avait déjà des vergers, par exemple, qui étaient présents. S'il n'y a rien qui pousse à un endroit, tu peux peut-être te dire bon, est-ce qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là ? Qu'est-ce que c'était ? Et hop, là, on voit que c'était vachement plus entretenu à l'époque, que tu as vraiment des grosses plaines, que tu as des arbres qui sont beaucoup plus droits, plantés. Et donc, c'était très très bien entretenu parce que c'était beaucoup plus vivrier, beaucoup plus paysan aussi. Et donc,
dans
ils vivaient vraiment de leur production.
Et justement, nommer quelque chose, c'était le connaître, non ?
Oui, certainement. C'était comme un personnage. Quand vous avez dit le nom, vous voyez tout de suite la figure de la personne. Quand je dis par Creus, je sais que c'est un champ de blé, parce qu'il y a plein de blé dedans cette année. Pas.
Oui, oui.
Oui.
Ah oui, c'est comme appeler des enfants ou les nommer.
Oui, par Gendril, parce que ça, c'était déjà c'était un champ qui avait été coupé en deux. Quand on avait fait le partage des terres, là, à l'époque de Napoléon, autrefois, on ne divisait pas tellement la terre, c'était à l'aîné que la terre appartenait,
oui.
Dur. Mais après, chacun avait son lot. Alors, quand le père n'avait pas beaucoup de champs, il fallait qu'il partage ses champs en deux, quelquefois. Alors, ces champs-là n'ont pas de talus. Ces champs-là ont un treillage, une haie, comme ça, entre deux. Et alors, les deux parcelles s'appellent parguendril, parce qu'une haie, c'est un drill. Il y, a
ouais.
Il y a deux champs côte à côte là, qui s'appellent tous les deux Parguendril. Parce qu'il y a une haie entre les deux.
Oui.
On sait voir la date là ?
Alors là, on est en quelle année ?
Parce que là, il est marqué 1950, bah ouais, 1965.
Je ne sais plus comment. Je ne suis pas un expert du truc. je découvre aussi certains trucs avec toi. Mais tu vois, ton jardin de base, il est déjà présent.
Ouais.
Et là, ça a l'air d'être aussi différent déjà, là, le tracé là qu'on voit là. Tu vois, on voit qu'il y a un autre truc qui était tracé là. Et là, on peut imaginer que ça, c'est des oliviers ou des choses comme ça, vu la taille et le port des arbres. Et ça, tu vois, c'est pas des arbres. Ça a l'air d'être plus de la bruyère. Alors peut-être qu'il y avait une pâture, peut-être qu'il y avait quelque chose de différent, mais en tout cas, ça donne une idée de comment c'était à l'époque.
Putain, c'est fou.
Vos champs, ils avaient tous un
nom. Ils ont tous un nom.
Ils ont tous un nom. Par exemple, celui-là.
Celui-là, il s'appelle Poulenco Bras. Poulenco.
Poulenco,
oui.
Ça veut dire quoi ?
Eh bien, poule, c'est une noire, si vous voulez, un bafon, comme ça.
Oui.
Poulenco. Et ça doit être une constriction de Poulenco. Islong, c'est abîme.
Oui.
Poule, comme si c'était un abîme, quoi.
Oui.
Poulenco. Une mare dans l'abîme. Oui.
La mare dans l'abîme.
Oui, Poulenco.
Alors,
et celui qui est plus bas, c'est Poulenco Bien, parce qu'il est plus petit. Et celui-ci, c'est Lonnegvien, c'est la petite lande, là.
La petite lande.
La petite lande, oui.
Alors, vous connaissiez tous vos champs et vous les connaissez toujours.
Mais certainement. Je ne suis pas comme les gens qui viennent là, maintenant, au moulin, qui achètent des terres, comme ça, quand ils trouvent, qu'ils appellent le 715 ou le 730 ou le 301, ou par leur nom de cadastre. Ça, c'est bête, ça.
La borne 15B est de couleur verte. Évidemment, le vert est la couleur préférée de Robin des Bois, Peter Pan aussi. On peut donc peut-être en déduire que ce tracé nous mènerait vers la route des étoiles de Peter Pan, et donc à l'île imaginaire des enfants. Ou à la tanière de Robin des Bois.
Qui va un peu de tisane.
Et voilà, nous venons d'entendre la discussion entre Gilles, Jeanne, qui a eu lieu fin 2024, et Angela Duval dans une interview d'André Voisin, qui s'appelle « Les conteurs » et qui date de 1971. On a trouvé intéressant de les faire résonner à plus de 50 ans d'écart. Tous les deux poétisent le cadastre, racontent l'absurdité des territoires découpés, de ce que ça dit d'un rapport à la terre déconnecté. Comment en est-on arrivé là ? Comment notre manière de nommer nos territoires a-t-elle évolué ? Et qu'est-ce que ça raconte de notre lien à la terre et au végétal ? Alexis, je te laisse une première réaction par rapport à ce que nous venons d'écouter.
Il y a plusieurs choses. Il y a, pour moi, je vais toujours parler très personnellement, quoi, pas professionnellement. J'en profite. Et c'est vrai que moi, la question du nom des lieux m'a toujours beaucoup animé, pas uniquement en tant que paysagiste. Et là, quand j'entends cette discussion, ces témoignages. Ce rapport direct aussi au lieu. On est sur le terrain, on est dehors, sous le ciel, devant les parcelles, et il y a un rapport immédiat, direct, entre la personne qui est là, qui cultive peut-être les lieux et les lieux eux-mêmes. Et quand même, c'est ce qu'on cherche, nous, comme paysagistes, quand on travaille sur un site. On parle de site de projet quand on est en charge d'un projet de paysage. Et souvent, traditionnellement, le site de projet est mis à distance à partir du moment où il est déclaré comme site de projet. Et c'est pour ça que nous, avec les amis avec qui j'ai commencé à travailler juste après l'école, on aimait bien aussi parler du terrain, quoi. Du terrain comme matière physique et comme matière vécue et comme espace où se déroulent des expériences. Et donc c'est ce rapport au dehors et au lien direct avec des lieux et donc des gens qui vivent ces lieux, qui nous tient à cœur, lorsqu'on rentre en contact avec le projet de paysage. Et là, c'est une première chose. Et puis la seconde chose que m'évoque cet enregistrement, c'est le rapport donc au cadastre. Comment finalement on rentre en relation avec les lieux, avec des noms et avec des expériences, plutôt qu'avec des chiffres et des limites cadastrales, des limites foncières. Et donc là, je pense inévitablement à ce bouquin que je suis en train de lire, là, que je n'ai pas fini, de James C. Scott, L'œil de l'État, où tout est dit dans le sous-titre, puisque c'est moderniser, uniformiser, détruire, où l'on apprend bien comment le cadastre arrive avec la nécessité des autorités étatiques. En fait, ça vient vraiment concomitamment avec l'invention de l'État. Donc c'est même pendant la monarchie que tout ça se règle. Et donc on vient mesurer les territoires pour les rendre plus productifs. Donc on installe les conditions de la productivité dans le terrain, dans le monde rural, sur le plan agricole. Mais en fait, on installe petit à petit les conditions de l'industrialisation. Parce que c'est à la fois l'industrialisation de l'agriculture, mais aussi derrière l'arrivée de l'industrie, quoi. Et ça, bah, c'est directement lié à ces notions de cadastre, parce que arrivaient comme ça dans les territoires du pays les fameux arpenteurs. Ça a donné un mot ensuite très poétique, quoi, l'arpentage. On arpente des lieux, il y a quelque chose comme ça qui nous renvoie à la randonnée, à l'errance. Mais en fait, pas du tout, c'était quand même dans arpentage, il y a arpent qui est une unité de mesure, et l'idée était bien de mesurer le territoire et donc d'aller cadrer ces parcelles pour les tenir dans des registres et mieux les contrôler. Donc cet enregistrement est très beau parce qu'il fait le lien entre cette histoire d'une mainmise institutionnelle et mais d'une persistance du lien direct paysan, quoi, du lien direct avec les lieux. Et en fait, on retrouve ça dans le monde rural, mais on retrouve ça aussi dans le monde urbain, puisque on nomme aussi les choses, enfin on nomme, et donc voilà. Et après là, c'est la question des noms, mais peut-être que vous voulez, enfin n'hésitez pas à me couper, parce que vous savez que je peux parler beaucoup. Ça renvoie à la question des noms, parce qu'à partir du moment où on nomme, on reconnaît l'existence de quelque chose, et reconnaître au sens d'une reconnaissance, pas juste on identifie et puis c'est plus facile pour ensuite en discuter. Comme on nomme des personnes, on nomme des lieux, on nomme des êtres. Et ça m'est cher parce que personnellement, encore une fois, j'ai moi, depuis l'enfance, toujours eu cette attention particulière au nom des arbres, plus particulièrement. Avant d'arriver au paysage, c'est ça qui m'a fait rentrer ensuite dans ce grand champ là du paysage. Mais d'abord, c'est vraiment les arbres, quoi, avec une espèce d'obsession, de fascination, un truc extrêmement intime qui s'est noué vraiment depuis toujours dans ma relation avec le monde végétal. Et je parle plus particulièrement des arbres parce que c'était plus facile d'abord d'apprendre le nom des arbres que d'apprendre le nom de toutes les herbes, tous les arbustes et tout. Pour moi, c'était quand même faramineux. Mais donc, cette attention au nom. Et je me suis aperçu plus tard que, fort de cette espèce de besoin impérieux là de devoir nommer les arbres que je rencontre, que je ne regardais pas les lieux de la même manière. Enfin, que je ne regardais pas les lieux de la même manière que mes potes, quoi. À l'école, dans les cours de récré et tout, qui se demandaient pourquoi je connaissais tout ça, pourquoi je m'intéressais à tout ça. Mais donc, je me suis rendu compte que c'était pas anecdotique. Tout d'un coup, on perçoit en effet les lieux différemment à partir du moment où on arrive à les nommer. Mais ça marche pour les montagnes, ça marche pour beaucoup, beaucoup de choses, quoi. La toponymie, c'est ça, quoi. Et le nom des lieux. Et là, c'est vraiment à travers le nom des arbres que moi, je suis rentré dans le nom des lieux. Et donc, reconnaître les arbres, c'est reconnaître des individualités. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les ranger dans la grande systématique botanique de la classification telle qu'on la connaît aujourd'hui, linéenne, là, qui va avec une tradition occidentale quand même de ranger les choses dans des cases pour mieux les maîtriser. Bon, c'est aussi pratique pour objectiver le réel que de les classer, que de classer. On classe pour penser, évidemment. Donc, tradition très occidentale. Et en même temps, ce qui me plaît, c'est justement de porter un regard singulier, c'est-à-dire particulier, à l'individu que je rencontre. Donc, en même temps que je nomme le micocoulier, par exemple, ou le platane, là, enfin, je pense à des cas à Marseille, je rencontre cet individu-là, comme ce platane-là, ce micocoulier-là. Donc, il n'a pas d'autre nom, finalement, que celui qui est rangé dans la classification. Et pourtant, il a son individualité propre parce qu'il a une architecture particulière qui appartient à son genre, mais qui appartient aussi à son implantation dans des lieux, à son histoire, à l'histoire des humains qui étaient autour. Et ça, qui vivent autour et qu'ils le conduisent. Donc ça me plaît beaucoup aussi, cette histoire. Derrière le nom des lieux, derrière la reconnaissance des lieux, des espaces par les noms, il y a aussi la rencontre intime, enfin particulière, quoi, d'individu à individu.
Et à la fois, on parle ici à la fois du nom des plantes et du nom des lieux, mais quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission, on a aussi discuté des lieux qui ont des noms de plantes. On parlait notamment de la rue des Fougères, l'allée des Acacias et d'autres qu'on peut considérer comme des appellations, des incursions du végétal dans des milieux urbains qui peuvent sonner un peu apolitique et qui finalement le sont peut-être pas tant que ça.
Oui, c'est vrai. Moi j'ai grandi à Montreuil. Je suis à Marseille depuis 5 ans et demi, mais je suis montreuillois aussi. Je traversais des rues, comme tu cites, quoi, la rue des Néfliers. Et je m'interrogeais souvent sur mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de Néfliers dans cette rue ? Je ne comprends pas. D'où ça vient. Ça nous oblige aussi à la recherche, et parce que derrière les noms des lieux, il y a une histoire et donc des récits, quoi. Ou l'histoire particulière d'une communauté d'habitants rencontre l'histoire de la grande planification des territoires, quoi. Mais quand même, pour revenir sur les lieux au nom de plantes, c'est vrai que ça m'évoque aussi les cités de la rose, les bâtiments, les bleuets, les amandiers, enfin qu'on rencontre dans les cités un peu partout en France d'ailleurs, hein, mais là moi je pense à des cités à Marseille, et il y a effectivement un écart assez puissant, quoi, une dissonance entre ces noms bucoliques et la réalité des lieux qui sont quand même faits de dalles, de bâtiments gigantesques ou avec une derrière une intention de gérer des logements plus que de créer de l'habitat, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces grandes barres, quoi. Enfin, on connaît ces cités qui sont des clapiers. Et donc il y a cette dissonance là comme ça quand on regarde de loin, c'est-à-dire quand on passe, qu'on sait pas ce que c'est que de vivre dans la cité quand on n'y a jamais vécu. Et en fait, donc il y a peut-être, donc voilà, donc ça c'est l'héritage un peu des grands planificateurs qui arrivent, paf, tabula rasa, qui mettent des grandes barres et des grandes tours, et puis pour amener un peu de couleur, pour le dire de manière très caricaturale, ils nomment avec des noms de fleurs. Et ensuite, il y a la réalité, qui est l'appropriation des habitantes et des habitants qui vivent en effet ces lieux. Et derrière le caractère très standardisé, homogène, en fait, petit à petit s'accumulent des séries d'appropriations qui fait que petit à petit, ces espaces très rationalisés gagnent en organicité, quoi. Et les noms, ces noms-là sont utilisés, quoi. Ouais, on se retrouve en bas de la tour. Là, je pense à la tour B de Félix Piat, ça n'a rien à voir, mais en bas du bâtiment des Bleuets ou quoi. Donc ces noms sont utilisés et ça, faut le reconnaître aussi. C'est-à-dire qu'on hérite d'un système qui nous vient d'une volonté de diriger, de contrôler, de ranger, de sécuriser, mais qui ne peut pas résister complètement, qui ne peut pas effacer, qui ne peut pas supprimer l'appropriation habitante en réalité. Et ça, c'est quand même notre rôle aussi de concepteur et de conceptrice, qu'on soit architecte, urbaniste, paysagiste, que de faire attention à ça, vraiment. J'ai l'impression que j'appartiens à une régénération qui veut rompre avec cette grande tradition de grands planificateurs. Le Corbusier, le grand architecte que tout le monde connaît, parlait de nos métiers comme des métiers de grands harmonisateurs. On œuvrait pour le bien, pour tout le monde, mais selon des catégories qui appartenaient aux sachants, quoi. Il y avait les sachants et puis les autres. Et on rompt avec ça en allant justement précisément rencontrer les lieux, donc les gens qui les vivent. J'ai un peu digressé, mais c'est ce que m'inspirait ta question là autour des noms bucoliques. Parce que un des grands chantiers qui nous attendent, enfin il y en a mille dans nos villes là, mais c'est vrai que celui des grands ensembles, des cités, HLM, des grandes copros aussi d'ailleurs, mais bon, voilà, ces espèces de grandes zones urbaines qui ont été investies dans les années 70 par des architectes qui planifiaient des centaines, des milliers de logements d'un coup, qui sortaient de terre en très peu de temps, parce que c'est l'arrivée du béton hein, qui permet ça, c'est une histoire. Moi, ça, c'est des choses qui m'interpellent, peut-être parce que moi, j'ai grandi dans une petite cité à Montreuil. C'est une petite cité, donc ça a l'allure d'une résidence, mais c'était une cité quand même. C'est-à-dire que voilà, il y avait une multiplicité, un cosmopolitisme quoi, qui m'a ouvert à l'altérité propre au milieu urbain, qui m'est devenu cher maintenant. Mais je pense que c'est aussi parce que le métier de paysagiste est arrivé aussi à un moment donné où on s'est dit on peut pas laisser de tels projets se faire uniquement avec des architectes, uniquement à l'aune du bâti, de l'architecture, du dur. Ça crée des espaces ouverts sur le ciel, avec des sols vivants qui doivent être pris en charge par des professionnels quoi, du vivant. Donc, dans mon souvenir, c'est comme ça qu'est arrivé le métier, en tout cas l'école de paysage de Versailles, qui était avant l'école d'horticulture, est devenue paysage, à partir aussi de cette attention-là portée sur les grands ensembles, les grandes opérations urbaines. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est à la fois personnel et à la fois ça touche aux origines de notre métier, en France en tout cas, du diplôme de paysagiste.
Et du coup, ça raconte aussi que le paysage, il peut être urbain. C'est pas forcément le cas quand on écoute, ouais. Quand on écoute Angela Duval qui parle, elle, qui raconte son paysage et qui nomme les champs. Mais en fait, le paysage est aussi urbain et ça me fait penser, je vais digresser aussi, mais quand tu parlais de l'arpentage et aujourd'hui de cette notion d'arpentage qu'on utilise davantage dans un champ littéraire, à la fois aussi on lit un paysage. Enfin, il y a tout cet entremêlement entre le texte, la littérature et les mots et ce paysage-là, ah oui. qui est aussi intéressant à explorer.
Oui, c'est clair. Alors là, voilà, et c'est là où il faut que je me contrôle parce que ça me donne envie de parler de plein de trucs. les mots, le rapport. Ok, le nom des plantes, le nom des lieux, les mots. C'est vrai que les paysagistes, waouh, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête.
Est-ce que tu veux qu'on écoute une petite chanson?
Oui, mais attends, je vais quand même essayer de mettre un peu d'ordre. Parce que le rapport aux mots, moi ça me fait penser immédiatement à ce qu'on est en train de travailler Donc je suis enseignant aussi dans cette école-là de paysage à Versailles, ce qu'on est en train de travailler avec mon équipe, composée de paysagistes de différents horizons, mais aussi d'artistes. Il y a Elsa Noyon qui habite à Marseille, qui travaille avec cette équipe là-bas, et qui travaille à la constitution d'un lexique personnel du paysage. Et c'est quelque chose qui est né de notre conversation commune sur l'attention portée aux mots et à leur définition pour mieux penser le projet et penser nos interventions. Donc ça me fait penser à ça. Ça me fait penser, moi, à mon amour pour la littérature qui a déterminé aussi mon approche du projet de paysage. Et je suis obligé de parler, puisqu'on parle du nom des lieux, d'un petit chapitre de La recherche du temps perdu de Proust. Ouais, Proust, ok, ça y est, Radio Galère est en train de virer France Culture, n'importe quoi. Non mais Proust, vraiment, très simplement quoi, nom de pays, le nom, c'est le nom du chapitre, c'est très beau, nom de pays, le nom. Et en fait, Proust était obsédé par ce qu'on appelle l'orographie, je connaissais pas ça, orographie, c'est l'étude des noms propres, et moi j'ai été marqué par son attention au nom des lieux précisément, mais aussi à la sonorité des mots, quoi. Et comment lui, il arrive là, et comme il est un peu reclus dans sa maladie, reclus dans sa chambre, incapable de pouvoir voyager alors qu'il a des désirs fous, il voyage en fait juste à travers le nom des lieux. Et ça rappelle, tu vois, comment, par exemple, une liste botanique, si on lisait là une liste de mots d'arbres, de noms de plantes, on voyage aussi dans des mots, même si on ne met pas forcément d'image. Et bien lui, voyager comme ça avec les noms propres des lieux. Alors il y a des passages comme ça où il décrit ça. Et c'est assez impressionnant. Moi, ça m'a marqué parce que j'ai cet attrait pour aller chercher aussi du ressort poétique dans le projet de paysage, quoi. Le projet de paysage, à mon avis, s'il n'y a pas cette réalité-là qui est activée, cette réalité du poétique, laisse tomber, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de paysage qui se tienne. Donc le poétique, c'est nécessaire, mais c'est difficile à prendre en charge. Mais voilà, les noms nous permettent de prendre en charge ça de manière hyper belle, quoi, et hyper simple, parfois hyper terre à terre. Quand je dis poétique, je dis pas France Culture là. Enfin, je dis aussi ce truc du contact direct, des relations interpersonnelles qu'on vit et tout. Et pour finir, la rue bleue, parce que tu parlais effectivement, on était projeté avec la pièce sonore dans l'univers, le monde rural. Tu fais le parallèle là avec le monde urbain, autour de ces notions de cadastre, de parcelles, de comment on nomme des parcelles, comment on nomme donc des quartiers, comment on nomme aussi des rues. Et moi, j'ai eu la chance là de travailler dans le cadre d'un dispositif européen à la Friche, et en lien avec le Bureau des Guides, l'association Le Bureau des Guides du GR 2013, dont je fais un peu partie comme guide paysagiste. J'ai animé une balade avec un public cible là du quartier de Belle de Mai, qui était un public de la Maison du Bel Âge. Donc rien de tel que des vieux pour nous ramener à la mémoire des lieux et à l'histoire du quartier. Donc ça, c'était fou. Parce que j'ai appris plein de trucs, c'est-à-dire que c'est moi qui les baladais, mais en fait, évidemment, c'était le prétexte pour les écouter. Et c'est là que j'apprends, voilà, en passant par la rue Clovis-Hugues, en passant même par l'impasse bleue, parce que en parallèle de la rue Clovis-Hugues, il y a l'impasse bleue, qui est en parallèle de la voie ferrée, qui est directement en lien avec l'essor industriel de Marseille au 19e siècle. Et là, il y avait l'impasse bleue. Et là, une personne me dit, l'impasse bleue, vous savez pourquoi elle s'appelle l'impasse bleue? Tous les habitants de la Belle de Mai le savent. C'est que la manufacture de tabac qui est aujourd'hui les archives départementales en partie, abritait, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, était utilisée par des travailleuses de la manufacture qui portait des blouses bleues. Et donc l'impasse bleue s'appelle comme ça pour ça, mais la rue Clovis-Hugues avant s'appelait la rue bleue, en hommage à ces blouses là qui défilaient pour aller au travail et sortir du travail. Et là, encore une fois, un nom anodin, rue bleue, quoi, te renvoie à une histoire industrielle, à une histoire des lieux, nous disent aussi à quel point l'installation humaine est liée au travail, quoi. Que ce soit en milieu rural avec l'exploitation des parcelles ou en milieu urbain avec les travailleurs, travailleuses. Vraiment, on est encore une fois sur ce truc du travail là, qui vient définir l'installation. Et en l'occurrence, rue Bleue. Et ce qui est amusant, c'est que Clovis Hugues a été un personnage... donc ça, je l'ai appris dans la fameuse bande dessinée là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. La Belle de Mai, Fabrique de Révolution, de Mathilde Ramadier et Élodie Durand, qui est au dessin, où on apprend que Clovis Hugues, donc c'est un poète... qui avait 19 ans au moment de la Commune et qui a participé en tant que journaliste à diffuser les idées de la Commune. Il a même pris de la prison pour ça. Mais petit à petit, dans sa carrière, il est devenu député, socialiste, ouvrier, à l'époque où le Parti Socialiste était un parti ouvrier, où le Parti Socialiste était un parti de gauche. Premier homme politique issu d'un parti ouvrier à la Chambre des députés, qui a soutenu les travailleuses de la manufacture de tabac, alors en grève. Première grève, j'en sais rien, mais en tout cas, cette BD restitue bien le courage que nécessite de se prendre en charge collectivement et faire grève, perdre des sous et tisser petit à petit un réseau de solidarité génialissime. Et donc Clovis Hugues a été le porte-parole de leur cause à l'Assemblée et leur a permis de gagner, leur a permis la victoire. C'est pas Clovis Hugues hein, qui a fait le bordel, c'est quand même elles qui se sont pris en charge et qui se sont syndiquées derrière et qui voilà. Donc voilà, juste ce petit nom de rue, paf, ça t'emmène dans un florilège d'histoires, d'enquêtes et tout ça. Quand on arrive à le mobiliser dans le projet, c'est génial. Ça veut pas dire que tu fais un projet inévitablement autour de l'histoire. Enfin. Que ton projet doit révéler l'histoire des lieux avec un truc, parce que là tu t'es vite dans un truc anecdotique, pas terrible. Non, mais par contre tu te documentes, quoi. La rencontre avec les lieux passe par ça aussi, quoi. Et en tant que concepteur, conceptrice, on a cette obligation là, cette responsabilité là, parce que sinon on est déconnecté, on fait des projets objets, des projets
On fait une petite pause musique et puis on continue juste après.
Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans les bois, puis il part au hasard en planant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous. Ils donnent leur fête, les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales où les vieux cantonniers sont rois ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi, et leurs poteaux télégraphiques font un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. Ah bas les routes rebattues, les tas de pierre, la poussière et l'herbe jaune des talus. Les cantonniers, il n'en faut plus. Nous avons pris un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés. Et puis sur ta figure, toute barbouillée de mûres, pour nous observer, des milliers de bêtes se sont installées. par-dessus nos têtes. Mais Aliébre au passage nous a dit, soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
Mais ça marche pas. Voilà, on vient d'écouter ce petit chemin qui sent la noisette. Des fois, les chemins n'ont pas tous des noms, mais on trouve toujours comment en parler, comment les raconter. Et cette chanson, elle a été écrite en 1936. Les paroles sont de Jean Nohain, la musique est de Mireille. Elle a d'abord été interprétée par Jean Sablon. Et là, c'était une version de 1964, chantée par Micheline Prel. Voilà, 1936, c'est aussi l'heure des congés payés et donc des routes départementales et des petits détours. Mais on reprend la conversation là où on l'avait laissée avec Alexis. Et
oui. Oui, bah là, c'est bien, ça vient en continuité avec la question des luttes et des soulèvements populaires, parce que, 1936, quoi. C'est pas juste Léon Blum et la SFIO, c'est surtout un mouvement de la société civile massif, des travailleuses et des travailleurs qui mettent la pression sur les élus pour faire valoir, pour qu'ils tiennent des promesses. Voilà, ouais. Je vais pas commenter plus sur le plan politique parce que sinon je vais m'éloigner du paysage, encore que. Mais en tout cas, le lien avec ces travailleuses de la fabrique, de la manufacture de tabac est là. Comment ? Je cherche les liens à faire, par rapport à la manière dont on vit les lieux. Le quartier de la Belle de Mai, avant d'accueillir des industries, avant le 19e siècle, c'était un village, hein, la Belle de Mai, là autour de la paroisse. C'est le cœur de ville. Le cœur du quartier, Place Caffaut, appartient vraiment au cœur du village de l'époque. Avant la Belle de Mai, donc c'était un territoire agricole, avec les collines qu'on connaît, de Saint-Mauron, tout ça, et où s'égrenait un paysage de vignes, clairsemé des bastides, des propriétaires. Et la rue Belle de Mai était avant un chemin, c'était le chemin de la Belle de Mai qui reliait le cimetière dans le centre, là, vers Porte d'Aix, jusqu'à Plombières. Et aujourd'hui, la rue Belle de Mai a quasiment le même gabarit que le chemin. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme si je savais réellement. Mais si, quand tu regardes les cartes, parce qu'en fait, les cartes nous apprennent ces choses-là. C'est un outil de planification assez génial, mais c'est aussi un outil d'exploration historique magnifique. C'est comme les noms. Enfin, ça va avec les noms, quoi. L'étude des noms va avec l'étude des cartes et notamment des cartes historiques. Donc, ça, pour faire écho aussi à la pièce que vous avez, qui introduit l'émission, quoi, avec aujourd'hui ce fameux outil Géoportail, qui est une mine d'or, parce que, voilà, on rencontre l'histoire. Et donc ce chemin-là, il sinue dans le quartier et il a vraiment la même figure, le même dessin qu'aujourd'hui. Et donc Belle de Mai, il y a plusieurs, puisqu'on est dans les noms quand même, il y a plusieurs versions pour expliquer d'où vient ce nom. Il y en a une qui était on élisait la Belle de Mai, la plus jolie petite fille du quartier, tous les ans. Je sais pas d'où vient cette tradition. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup plus d'explications à cet endroit-là. Dans la bande dessinée, la Belle de Mai, Fabrique de Révolution, elle cite cet exemple et les travailleuses se l'approprient en disant, ce sera pas Voilà, elle se l'approprie dans la lutte. Mais il y a une autre version qui est que Belle de Mai, en provençal, Bella de Mai. Alors, ça ne veut pas dire Belle de Mai. Ça ne veut pas dire Belle de Mai. Ça veut dire Belle d'Avantage. Belle d'Avantage, en hommage à un cépage de vigne tardif. Donc tardif, c'est-à-dire que c'est une vigne qui produisait jusqu'en décembre parfois. Donc Belle de Mai viendrait du nom. Et moi j'aime bien cette version-là parce qu'elle nous ramène au passé agricole du lieu. Elle nous ramène au vin, enfin voilà, aux vignes qui poussaient là. Et donc on lit ensuite le territoire un peu différemment quand on sait ça, quoi. Ne serait-ce que le dessin des rues, le dessin des parcelles qui s'imposent petit à petit. Parce qu'après, il y a quand même la planification urbaine qui s'impose là-dessus, et il y a quand même dans cette fabrique-là une impermanence du cadastre, quoi, par exemple, une impermanence du tissu agricole et urbain. Il y a une rotation, de la même manière qu'en milieu rural, en milieu agricole, il y a une rotation des cultures avec un remaniement. Oui, le grand remembrement des années 70 avec l'industrialisation de l'agriculture en atteste. Donc là, c'est la version vénère, quoi, la version dure, destructrice. Et en ville, il y a aussi ça. Il y a des parcelles qui sont remaniées. Même le cadastre peut changer. On peut fusionner des parcelles. On peut, au contraire, fragmenter. Et donc, il y a, c'est là où on parlait hier de la figure du palimpseste, quoi, de cette superposition d'époques qui se lie à la fois dans les cadastres, dans les styles architecturaux, dans le dessin des rues, des voies. Et donc là aussi, c'est encore une fois un moteur de récit. La question de l'impermanence va avec le sujet des constructions et des déconstructions. Comment il y a une économie de la destruction avec l'économie néolibérale capitaliste. On ne construit pas uniquement pour loger ou pour fabriquer de la ville. On construit parce que c'est du business. Et on détruit aussi parce que c'est du business. Et là, moi, ça me fait penser à un combat en cours très, très brûlant. Enfin, ça dure depuis quelques années, mais il y a des actualités très brûlantes sur un quartier aux confins de la Belle de Mai, avec la cité Bellevue, la cité Félix Piat, quartier Bellevue, à côté du nouveau parc Bougainville. Donc fait par des consoeurs, confrères paysagistes. Je parle de la cité Bellevue parce qu'il y a le sujet brûlant de la démolition de la tour B1, là. Et donc là, je file la question des remaniements, des rotations, avec ce sujet-là, qui est le sujet en fait de la rénovation urbaine, la fameuse grande mission étatique de... s'atteler aux problèmes des cités, voilà, c'est comme ça qu'ils disent, pour améliorer les conditions de vie. Le fait est qu'il y a il y a un énorme chantier pour améliorer la condition de vie des gens là-bas. Et en fait, c'est un sujet de lutte, quoi. C'est un sujet grave, un sujet de... Et une des réponses là pour la cité Bellevue, c'est de démolir une tour parce que elle ne répond plus aux normes, parce qu'il y a aussi l'évolution des normes de sécurité. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, et celui qui est retenu de manière de préférence, c'est sa démolition. Mais parce qu'en fait derrière, il y a quand même cette idée, on l'a vu aussi avec la Castellane, cette idée de derrière le beau concept de désenclaver des territoires, parce que la question de la ségrégation territoriale à Marseille se pose de manière très violente, notamment à cause des dessertes de transport, mais pas que. Donc, sous couvert de désenclavement, on détruit des tours, on détruit des bars pour créer des grandes ouvertures, des grandes coulées vertes et autres. Mais en fait, derrière ça, il y a aussi l'idée de sécuriser. Il y a aussi une idée sécuritaire de contrôle, quoi, des espaces, de faire rentrer les forces de l'ordre plus facilement, machin. Donc il y a une violence quand même derrière la démolition qui est déjà une violence, en fait, de planification, quoi, d'idéologie de planificatrice. Et puis il y a la seconde violence, qui est la violence directe des gens qui vivent les lieux et qui vivent parfois depuis plusieurs générations là, et qui ont tissé tout un réseau interpersonnel qui vivent les quartiers, quoi. Quand on travaille, quand on fait du projet, ouais, voilà, quoi. Quand on fait du projet, la fabrique de la ville, c'est la fabrique de l'habitat. Quand je parlais tout à l'heure d'améliorer les conditions d'habitabilité, c'est vraiment ça. C'est s'atteler à la question d'habiter les lieux. Et habiter, c'est pas juste se loger, c'est pas juste résider. C'est faire des expériences multiples. Les expériences multiples et interpersonnelles, quoi. Et donc, tous ces gens-là qui sont dans la tour, qui vivent parfois depuis 10 mois sans ascenseur, enfin, c'est vraiment très violent, les conditions de vie, c'est indigne. Ils sont quand même attachés au lieu. Et il y a vraiment une problématique sur l'arrachement, quoi. C'est-à-dire que, ok, on démolit, mais on va où ? Pendant que c'est démoli et en attente de relogement, on est relogé bien parfois complètement à l'autre bout, complètement ailleurs. Enfin, là, il y a vraiment un énorme sujet politique, là, très brûlant en ce moment. Qui se pose de manière très actuelle avec les grandes promesses de, tu sais, il y a le plan Macron-Payan sur Marseille en grand, qui est cette espèce de grand plan de communication, enfin tel que la Cour des comptes l'a révélé, hein, parmi ce grand plan Marseille en grand, il y a le sujet de la rénovation urbaine. Et là, je pense qu'il y a un truc dont il faut qu'on se saisisse aussi comme paysagiste, habitant, société civile, pour faire valoir la vie particulière de nos quartiers, de nos réseaux familiaux, voisinage, etc., sur les grands projets de planification. Oui, il faut améliorer les conditions de vie, mais pas au détriment de tout ce tissu très précieux et fragile, en fait, d'une vie de quartier, d'une vie de voisinage, etc., quoi. Donc, cette question de l'impermanence, le mot est joli, le mot est très beau, mais il peut aussi s'accrocher à des réalités parfois dures, quoi.
Oui, et du coup, je pense que toute la question, c'est de comment est-ce qu'on met aussi le récit au centre du paysage. Et je trouve ça très beau comment tu racontes que, en fait, tous nos paysages, qu'ils soient urbains ou ruraux, quelque part racontent des liens, mais racontent aussi des luttes. Et je trouve que c'est une belle manière de relire et de relier notre rapport au lieu qu'on habite et qui nous habite aussi.
Ouais, moi ça me donne envie de lire parce que en fait j'ai ramené plein de bouquins parce que j'arrive pas à bosser sans m'entourer des bouquins, c'est plus facile. Et là j'ai ce livre de Sharon Tullock qui était publié aux éditions Communes. Un voyage accidentel, qui est une femme qui a subi les mises en péril à Marseille depuis les effondrements du 5 novembre 2018 de la rue d'Aubagne. Et elle a pris cet outil de l'écriture pour l'emmener dans la lutte. Après, c'était aussi vital, c'est-à-dire qu'on a tous nos endroits pour tenir, pour résister à l'adversité, résister tout ça. Et donc elle a pris la plume, quoi, pour tenir un grand journal au fil des jours qui s'écoulaient, où elle raconte au jour le jour les événements sous forme avec une écriture poétique, quoi, comme ça. Et peut-être que je peux lire un petit passage qui résonne avec ce dont on parle avec les futurs délogés de la tour B de Félix Piat, sauf si on arrive. Il y a quand même le collectif Félix Piat, hein, c'est-à-dire que les gens on s'organise en communauté, en collectif, pour résister, quoi. Enfin, et donc elle dit à un moment donné, là, le jour 140, 24 juillet 2019. Bon, je lis tout. Ce matin très tôt, le soleil peint des stries roses et jaunes. Elle glisse entre les volets qui ne me protègent guère de la chaleur étouffante de l'appartement. La sonnerie du tram résonne toutes les 5 minutes. Les klaxons des conducteurs pressés insistent. Les sirènes des pompiers ouvrent les voies. Les accidents qui surgissent à l'angle de ma rue exigent ces boules-quièces portées chaque nuit. Malheureusement, elles s'échappent en douce. Entre les draps moites et les oreillers froissés, elles se retrouvent collées à ma joue, à mon cul. Mais écoute, je suis soulagé d'avoir un toit. Ce matin, de nouveaux évacués nous rejoignent. Le nombre de déracinés grandit à vue d'œil. Quand tu es délogé, que tu arrives dans un hôtel où tu n'es pas accueilli, qu'on te laisse sans explication, tout est confus. Les mots aussi. Par exemple, le mot « reloger » qui suscite en moi un sourire sceptique. Aujourd'hui, je sais comment fonctionne ce protocole d'administration nébuleux. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix. Or do I? I don't know. Cette situation obscure te pousse à bout. Tu découvres de quoi tu es fait. Même si tu es perdu ou en colère, tu peux ressentir, donc tu es vivant. Ta gueule. Écoute, je suis soulagé d'avoir un toit. Jusqu'à quand?
Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait qui vient en plus introduire dans toute cette question de paysage et de comment on l'habite, la question de l'enracinement et du déracinement. Je trouve que c'est une belle manière de conclure parce que le temps file.
Ah oui.
Et merci beaucoup à toi d'être venu pour...
Merci beaucoup à vous.
Pour cette balade sprintée dans le paysage. Merci l'équipe de Radio Galère. On se retrouve le 25 février pour la prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis pour finir et boucler encore la boucle, peut-être avec Angela Duval, on écoute un morceau de rap en breton, c'est Plouz à Fouen. Merci beaucoup, à la prochaine.
On voit qu'il y a toujours de l'épiderme, il y a toujours du parenchyme, on a du collenchyme, ce sont des vaisseaux, ce sont des cellules qui sont très rigides, on a de nouveau du sclérenchyme, si le xylème est en forme d'étoile, on a une racine de dicotylédone.
Comment ça, t'as rien compris? Bienvenue sur Dicotylédone, l'émission qui parle de plantes. Tous les quatrièmes mardis du mois sur Radio Galère 88.4.
Individuel à dans tempéra.
Des osuriens en endro. Au skin qui t'a goué en favori les deux imendro. Et pris ta l'arfèchement. Gangré d'affichant, ça pas rime. Un bilan, c'est un rime. Zonge, on ne se casse de l'an.
Ça n'avait, il n'avait fait créer la place du. Mazou de du peu plus de l'arme.
Pas de sgagnon.
Deux de l'eau quand elle l'homme.
Leur morcal va bé, rhum.
Attends, babillin, à score, ne pas viton.
Isocrénard des deux, t'inquiète, connard des trucs.
Anis tout en quai dans Venzo, qu'en dire à garzé le bruit.
Trop quand mes bêtes, pas ma brawa gamme.
Ni dans ma gueule et dans mouqueuse, vers Ulus que zé da gang quit.
Quand c'est sur Bess Varnugens, tanké d'air, tanké nous. Heurs une vez à Bess, autre hier, ribino. Four et marron renne, les musqués d'Avra Vigo. Lampon casse la benne, d'amène nos actes des votins en you. Un vorio à Talran, à guette de Ouvarfe. Paru l'an une an, et te dit du Askel, n'est moi qui rejoins que t'as donné, on est moi qui t'as donné. Après mon maillot grid, et rencontre rue, y'a un nail.
Et zé les spies aux ennois, blague en vente d'abri derrière. Mais nous ont quitté d'appeler et en urbaine, ce qu'on nous prenait de mettre d'affaires, c'est mieux, spectra.
Spectra!
Et n'est qu'en gramme, même chaque côte, a pas vu une tas de causes, l'art qui se n'a cause, nous rendons en pelle, cuisine.
nisiga la pagos, ne hortos, pubos des mafigos. Les chances niveau que bon épée nous mort, pas mas drake qui se fixe figo.
Arpé billet sans os crivant, quand on a win nous bête cofen. A pas vésé zo comme, chez la one kegis Beethoven.
Un peu d'avro, et puis romain dansé. Un quai d'arriver l'an, mais mas gouez dans gouélor, gouélancé.
Les mecs qui se rinquent, donc qui gortos et très atteints, qui s'en tapent les rues, qui n'a pas un mémestro, c'est d'air et qui s'en valu, de dons, de sastumes, et qui d'amarrent à rinquent.